voix nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Ken Loach. Ce soir, l'apprentissage d'Oxford à la BBC.
Bonsoir Ken Loach.
Bonsoir.
S'il m'est impossible de résumer en quelques mots votre puissante filmographie, ce qui caractérise vos œuvres, ce sont vos personnages. Tous sont saisis dans leur ardente humanité, conscients ou non d'être étreints par un sous-texte historique, économique et social. Vous vous définissez comme le social worker du cinéma anglais et n'avez eu de cesse, en plus de 50 ans de carrière, de filmer et de donner chair aux petits, aux sans-grades, aux oubliés de la société. Ouvriers déclassés ou victimes de la mondialisation néolibérale, immigrés en danger, femmes battues, combattants politiques, ceux que les sociétés dites modernes veulent cacher, vous, vous les magnifiez, sans manichéisme mais avec douceur et humour. Cinéaste multi-récompensé dans le monde entier, doublement palmé à Cannes, Ken Loach, vous rêviez de faire quoi quand vous étiez un jeune garçon?
Je ne me souviens pas des rêves quand j'étais très jeune, mais quand j'étais adolescent, je me suis passionné pour le théâtre. Il y avait une compagnie professionnelle qui venait dans la petite ville, enfin c'était pas une tellement petite ville, mais elle venait trois fois par mois, et je suis rapidement devenu un spectateur avide de leur public. Et j'y allais à chaque fois qu'il montait une pièce et j'étais amoureux du théâtre. J'allais à Stratford-sur-Avon, là où il y a le théâtre shakespearien et tous les grands noms du théâtre britannique qui jouaient dans les années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50. Et c'était environ à 40 kilomètres de chez moi. J'y allais à bicyclette, le soir, et je revenais la nuit, lorsque j'avais 15, 16 ans. Et je regardais Shakespeare. C'était ma passion. Des livres sur le théâtre. Je lisais des pièces sous les couvertures, avec une lampe torche, quand mes parents pensaient que je dormais. Des choses stupides que les petits garçons font.
Ken Loach, vous êtes né à Nuneaton, dans le comté de Warwick, au cœur de l'Angleterre, une Angleterre industrielle, en juin 1936. Un mois et une année très importants en France pour la reconnaissance des luttes sociales. Vos parents étaient plutôt conservateurs. Quelles étaient vos relations avec eux?
Mon père faisait partie d'une famille de 10 enfants. C'était des mineurs de fond. Il travaillait dans les mines de Coalfields. Il a commencé sa vie comme apprenti électricien, au fond. Il a quitté la mine et est devenu ouvrier d'usine. Mais il a bien progressé, il était responsable de la maintenance dans une grande usine de machines-outils. Et parce qu'il était responsable de la maintenance, il devait travailler non seulement quand l'usine fonctionnait, mais lorsque les machines étaient arrêtées. Donc il allait au travail de lundi à vendredi à 6 heures du matin, rentrait à 18 heures. Le samedi, il partait à 6 heures du matin et revenait à midi. Et le dimanche, il partait à 6 heures du matin et il revenait à midi. Donc il travaillait 7 jours par semaine. Il était absorbé par son travail. C'était, en fait, plus je vieillis, plus je le respecte. C'était un homme extrêmement intelligent, extrêmement fin. Sa mère, enfin, ils étaient tous très pauvres. Lorsqu'il a eu 11 ans, il a passé l'examen pour rentrer en sixième, c'est-à-dire un lycée public, et puis ensuite à l'université. Il est né en 1905, donc ça devait être en 1916. Et sa mère lui a dit, « Non, non, tu ne peux pas aller au lycée parce que on ne peut pas se permettre de t'acheter l'uniforme dont tu auras besoin. » Et on a besoin que tu ailles travailler pour que tu rapportes l'argent à la maison. Donc il n'y est pas allé. Et il en a été amer toute sa vie. Et il était absolument décidé à ce que j'aie une éducation. J'étais le bénéficiaire de cette décision. Il est resté classe ouvrière jusqu'à la moelle de ses os. Et parce qu'il a fait, il a réussi en fait un peu, il avait un salaire hebdomadaire, mais bon, c'était un ouvrier, mais il a un peu réussi, et il gérait un certain nombre de responsabilités. Il est devenu un conservateur de la classe ouvrière. Et le journal qui arrivait chez nous était un journal de droite. J'ai absorbé cela au début, jusqu'à ce que je sois à la fin de mon adolescence, et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait d'autres points de vue. Ma mère, elle, était la fille d'un tailleur qui avait sa propre boutique. D'une certaine manière, lui, c'était, disons, la classe ouvrière moyenne. Il travaillait lui-même, il avait un petit magasin, mais il y avait deux, trois personnes qui travaillaient pour lui. Disons que petit bourgeois serait l'appellation exacte. Et la famille de ma mère avait des aspirations. Ils ne venaient pas de ce coin-là, ils habitaient plus au sud, dans une zone qui s'appelle les Cotswolds, qui à l'époque n'était pas très riche, mais qui l'est aujourd'hui. Donc, lui, c'était un marchand avec sa propre boutique, et c'était quelqu'un de très très drôle. Et la mère de ma mère est morte quand ma mère avait 3 ans. Elle est morte en 1908. Et elle est morte d'une opération qui a mal tourné, comme c'est arrivé à cette époque-là. Et ma mère était hantée par cette tragédie toute sa vie et a porté le poids de la perte de sa mère quand elle était jeune. C'est donc devenue une mère assez anxieuse, angoissée. Mes parents n'ont pu avoir qu'un seul enfant pour des raisons médicales. Et la seule fois où j'ai vu mon père pleurer, c'est lorsque ma mère a perdu son second enfant. C'était une relation très très forte avec ma mère, jusqu'à la fin. Et les derniers mots qu'elle a prononcés étaient au sujet de sa mère. Je sais qu'elle était hantée par elle, mais elle n'en avait pas parlé. Et ses derniers mots qu'elle a prononcés, c'était « Où est maman ?» Elle avait 93 ans.
Ken Loach, vous décrochez votre baccalauréat et vous choisissez d'aller faire des études de droit, mais pas n'importe où, à Oxford.
Eh bien, avant d'aller à Oxford, comme tous les garçons, j'ai dû accomplir mon service militaire. J'étais à l'armée pendant 2 ans. Et quand j'étais à l'école, j'étais bon élève. Je travaillais très dur. En 6e, j'ai jamais travaillé aussi dur après. J'ai passé un examen pour aller à Oxford. C'était inouï dans notre famille.
Bon,
c'était pas inouï, mais bon, chaque année, il y avait peut-être un ou deux garçons qui allaient à l'université d'une ville de 60-70 000 habitants. C'était une ville très classe ouvrière. Une poignée allait à l'université. Donc, pour aller à Oxford, j'avais eu beaucoup de chance. Mais avant, j'ai dû servir 2 ans dans l'armée de l'air. Et je me suis porté volontaire pour aller en Extrême-Orient. Mais en fait, ils m'ont envoyé à l'extrême-est de l'Angleterre, dans les Midlands. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus loin, mais non. Vous savez, l'Empire britannique, la Malaisie, des choses comme ça, l'Extrême-Orient. Mais en fait, moi, on m'a envoyé à quelques centaines de mètres de chez moi. Donc, j'y suis allé et j'ai été dactylo pendant 2 ans. J'ai perdu toute capacité de travailler à l'université. J'ai pas écrit une dissertation pendant 2 ans. Quand on a 18, 19 ans, c'est vraiment très, très long. C'était de l'éducation parce qu'on était un groupe de 22 gamins, des gars, on avait quoi, 18, 19 ans. Véritablement un mélange de tous les garçons de la classe ouvrière, de tout le pays. Il y avait un gars de Glasgow qui cherchait toujours à se bagarrer. Bon, c'était des garçons qui collaient à leur stéréotype. Tout le monde fumait, et quand on se levait le matin, l'air était comme du sirop, dégueulasse. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que moi, je venais d'une famille extrêmement protectrice. Je connaissais tout le monde. Être plongé à 19 ans là-dedans, c'était comme de sauter dans un bain glacé. J'ai appris beaucoup. J'ai appris l'humilité. Et j'ai appris à me faire des amis, être à l'aise avec soi-même, et puis après d'aller à Oxford après ça, c'était extraordinaire. Parce que Oxford à l'époque, vous savez, c'était l'Oxford de la première moitié du XXe siècle. C'était une réserve de la classe dirigeante. Il y avait proportionnellement beaucoup de gens de la classe dirigeante. Vous savez, Oxford est divisé en facultés. Et chaque faculté est indépendante, avec un caractère différent. Certains collèges sont identifiés avec la classe dirigeante, avec les très riches. Et il y a des relations avec les grandes écoles privées où on envoyait les enfants riches. Et les autres facultés étaient plutôt reliées aux écoles publiques. Et c'est des gens avec, si vous voulez, une origine ordinaire comme la mienne. C'était très agréable. Et de voir la véritable richesse dans cette université, c'était exceptionnel. C'était une richesse que je ne pouvais pas imaginer auparavant. On la connaît par la littérature, mais de la voir d'aussi près. Des jeunes gens avec ces voitures de sport qui faisaient la course, qui s'achetaient des repas très chers, qui achetaient des vêtements onéreux, qui se comportaient comme s'ils possédaient l'endroit. Moi, j'étais un peu intimidé. Quand je suis allé d'abord à ma faculté, il y avait des serviteurs là-bas. C'était vraiment de la confusion pour moi parce qu'ils étaient comme mon père, des gens d'âge mûr. J'ai commencé à les appeler monsieur. Et l'un d'entre eux m'a dit, non, nous vous appelons monsieur. Vous nous appelez par notre nom de famille. Et j'ai dit, mais je ne peux pas faire ça. C'est trop humiliant pour nous deux. Mais de voir cette richesse, cette arrogance, c'était la première leçon politique que j'ai reçue.
Mais Oxford n'est pas vraiment réputé pour son brassage social.
Non, mais à l'encontre de ce mauvais aspect, il y avait une énorme liberté, trop de liberté. Je ne devrais pas le dire, mais il y avait trop de liberté. On a monté pièce de théâtre après pièce de théâtre. Nous avons travaillé avec des gens extrêmement créatifs, drôles, fins. Chaque trimestre, on montait une pièce. Moi, j'en ai réalisé certaines, j'en ai mis en scène certaines. J'ai joué aussi. Et on était flattés par le fait que les critiques de Londres venaient regarder nos pièces. C'était disproportionné parce qu'on était des gamins, en fait. Mais de toute façon, les principaux critiques artistiques venaient nous critiquer et publiaient dans The Guardian et dans d'autres journaux. C'était très flatteur. On pensait qu'on était beaucoup plus important que nous l'étions en réalité. Mais c'était vraiment très, très excitant. Moi, j'ai joué King Lear au deuxième trimestre.
T'es
beaucoup trop jeune pour jouer ça, mais on a joué tous les grands rôles. Et on a travaillé avec un jeune Américain, Stephen Arrow. Et son idée, je crois qu'il la tenait d'une expérience précédente, d'improviser autour des situations fondamentales pour donner une autre vision de ce que ces gens-là pensaient. On ne faisait pas que répéter les dialogues. Je trouvais ça vraiment très enthousiasmant. On n'improvisait pas Shakespeare, mais on improvisait sur les situations fondamentales. C'est une idée qui m'est restée pour toujours. J'ai continué à l'utiliser. J'ai travaillé avec Dudley Moore, qui est devenu un comédien extrêmement célèbre, acteur dans les films américains, beaucoup de musiciens, des gens avec beaucoup d'énergie, des jeunes avec beaucoup d'énergie et d'imagination. Et c'était un privilège exceptionnel pour des jeunes.
Et vous étiez aussi un acteur.
J'étais acteur, mais pas un grand acteur.
Alors on est au début des années 60, vous avez terminé vos études de droit à Oxford, des études de droit matinées d'expérience théâtrale extrêmement riches. Du coup, qu'est-ce que vous faites en sortant?
Lorsque j'ai quitté l'université, j'étais diplômé de droit et je devais devenir avocat de la défense. Vous savez, la personne qui représente ses clients devant le tribunal. J'aimais bien travailler dans le juridique, mais le théâtre m'attirait plus. Mon père a été vraiment fracassé parce que c'était son rêve. Lui n'a pas eu le droit d'être instruit et il m'a donné cette chance extraordinaire et moi je lui tournais le dos. Donc ça l'a beaucoup énervé. Et plus je vieillis, plus je me sens coupable. Il a dit, tu ne feras jamais un sou. Et à l'époque, il n'était pas très très loin de la vérité. Donc j'ai travaillé au théâtre. En tant qu'acteur, pendant un temps, j'ai travaillé dans un théâtre pour enfants. J'y rencontrais celle qui est devenue ma femme, Leslie, et nous vivons encore ensemble, ce qui est bien. Nous jouions des pièces comme Goupil le matin, et j'ai joué le rôle de Jeannot Lapin. Je n'en parle pas, sauf avec des amis, donc ça reste entre nous, n'est-ce pas? Jeannot Lapin, il n'a pas vécu longtemps dans les mémoires. Mais enfin, de manière très négative pour les malheureux enfants qui ont dû regarder cette pièce. Je suis allé faire une pièce avec un comédien qui s'appelait Kenneth Williams, qui m'a appris beaucoup sur la vie dans les coulisses. Et j'étais exposé à des acteurs professionnels, ça a eu beaucoup de valeur, parce que j'ai jamais eu d'autre responsabilité que de connaître mes dialogues. Mais d'être simplement une petite souris et de regarder ce qui se passait et d'observer comment fonctionne le théâtre professionnel, comment fonctionnent les acteurs, leur insécurité. Vous savez, le metteur en scène, c'était un bon danseur, mais il n'avait aucune notion de la façon de parler aux acteurs, de voir ses erreurs, de voir la façon dont il parlait aux acteurs et qu'il les détruisait. Ça avait une grande valeur pour moi. Simplement observer cela. Faire partie de quelque chose où on n'a aucune responsabilité, finalement. Et puis, je voulais toujours travailler au théâtre et faire un théâtre populaire comme celui de John Little, un grand metteur en scène que j'ai beaucoup admiré. Je voulais travailler au théâtre, essayer de mettre sur pied une compagnie théâtrale. On a échoué. On a eu un enfant, il fallait trouver du travail. J'ai demandé à travailler à la BBC comme régisseur adjoint, celui qui ramasse les accessoires. Et on m'a dit non, j'étais incapable de réunir les accessoires. Mais je voulais essayer à nouveau et j'ai demandé à faire partie d'un cours pour metteur en scène. On m'a dit, ah oui, c'est possible. Vous êtes incapable de mettre en place les accessoires, mais vous pouvez travailler sur un cours de metteur en scène. C'est un cours qui a duré quelques semaines. Et en fait, ça portait sur la façon de travailler à la BBC et quelle était la philosophie du travail de la BBC, comment il fallait remplir les bons formulaires, des choses comme ça. Mais rien sur la mise en scène, sauf un matin, il y a un metteur en scène de télé qui nous avait donné un cours sur la façon de travailler avec les caméras. Nous, on n'avait jamais vu ça auparavant. Je ne connaissais pas les caméras, je ne savais pas où était l'avant et l'arrière d'une caméra. Mais en moins de quelques semaines, j'ai dû m'asseoir dans le siège d'un réalisateur de télévision, mettre en scène une série policière qui était diffusée vers 10 millions de téléspectateurs. Et s'il y avait une caméra qui était dans le plan, c'était désastreux. Le ciel allait nous tomber dessus. Les chefs de la BBC allaient nous tomber dessus aussi. Moi, j'étais terrifié. Mais j'ai réussi à aller au travers et j'en ai dirigé 3 épisodes. Vraiment, j'ai réussi ça de très peu. Et vous savez, c'est très important de faire une série policière pour un très jeune metteur en scène, parce qu'il y avait des acteurs qui étaient habitués à cela. Pour eux, c'était une routine. Je devais dire quelque chose sur leur façon de jouer. Mais certains de ces acteurs deviennent extrêmement paresseux et très mauvais parce qu'ils travaillent ça toutes les semaines, il n'y a rien de nouveau. Donc tenter de trouver une façon de ne pas les prendre à rebours, mais de leur donner un petit peu à réfléchir, c'était difficile. Mais c'était un excellent exercice, travailler avec ces acteurs, trouver une façon de dire quelque chose qui les aiderait, leur donner une façon différente de voir ce qu'ils faisaient. C'était une bonne expérience.
Les premières séries que vous réalisez renvoient à une forme de légèreté, une forme d'insouciance, qui sont propres au Swinging London de l'époque. Et en parallèle à cela, vous passez à d'autres réalisations comme les fameuses dramatiques du mercredi. Est-ce que vous pouvez me raconter cette expérience de réalisation ?
J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Toute personne qui travaille dans notre profession, à quelque niveau que ce soit, le fait à 90% grâce à la chance. J'ai eu beaucoup de chance. La chance de rejoindre la BBC à l'époque où c'était encore quelque chose d'ouvert. Et la chance de pouvoir travailler avec un groupe de gens qui faisaient de la fiction contemporaine à une heure de grande écoute, c'est-à-dire après les informations de 21h, pour une heure et demie, toutes les semaines, nous pouvions faire de la fiction contemporaine. On ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Qui reflétait la façon dont se comportait le monde. Et c'était grâce à un responsable des dramatiques à la BBC, très intelligent, très fin, qui employait un producteur qui s'appelait James McTaggart. Il n'était pas très politique, mais il était iconoclaste. Il aimait bien taper sur l'establishment. Il n'était pas politique à notre manière, mais c'était un pirate. Il aimait bien renverser les idoles. Et il utilisait trois chefs scénaristes extrêmement talentueux. Et les chefs scénaristes étaient au centre de cette entreprise. Et depuis, je crois, encore aujourd'hui, que le scénariste, c'est le centre du film. Tout commence avec le scénariste. Ça commence pas avec le réalisateur, ça commence avec le scénariste. Et ce garçon écrivait très très bien. Un de ces chefs scénaristes, c'était Roger Smith. On a monté des pièces ensemble. Il est devenu beaucoup plus politique que je ne l'étais. Il aimait beaucoup Brecht et il mettait en scène des pièces de Brecht en raison de la politique et aussi pour le théâtre. Il m'a demandé de les rejoindre comme un des réalisateurs, metteurs en scène. Et c'était fantastique pour moi parce que je venais d'apprendre les fondamentaux et soudain je travaillais avec les meilleurs scénaristes, des nouveaux scénaristes. David Mercer, Jim Allen, d'autres. Et travailler avec eux, cela m'a introduit à la politique, à regarder le monde de façon critique. Et les deux autres, Kenthorpe et Tony Garnett, j'ai travaillé avec lui très longtemps et nous sommes restés de très bons amis, comme avec Roger d'ailleurs. Et ces relations ont duré toute une vie. Cette attitude envers le travail a duré aussi toute une vie. Ce sentiment du collectif a duré toute une vie aussi. Parce que c'est notre groupe qui l'a fait. On partageait les idées. On partageait les images que nous voulions mettre à l'écran, les influences que nous absorbions, quelle forme de jeu nous voulions voir. On aurait pu écrire un manifeste, mais on ne l'a pas fait. On aurait pu le faire. Mais en fait, on avait le sens de ce manifeste. Et c'est la base de tout ce que j'ai fait depuis. C'était vraiment très important.
On est au mi-temps des années 60. Est-ce que c'est à cette période que vous forgez vos convictions politiques ?
Oui.
L'importance des années 60, bon, c'est la musique, la mode, tout ça. La musique. Vous savez, j'avais des jeunes enfants. Moi, j'étais à la maison. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées loin par-dessus. Je fumais pas de joint. Peut-être que j'aurais dû, mais je le faisais pas.
Moi, je m'occupais de mes petits-enfants.
Et on travaillait pendant de très longues heures.
Mais ce qui était super pour les années 60, c'était sexy d'être de gauche. Si on voulait être chic et chouette, il fallait être de gauche. Et la nouvelle gauche, c'était la gauche anti-stalinienne. Ni Washington, ni Moscou, disions-nous. Et on revenait aux fondamentaux, aux textes socialistes. Marx, principalement, Trotsky, Lénine, bien sûr, et les débuts du socialisme, jusqu'à la guerre civile, jusqu'à la révolte paysanne. Et j'ai lu pour la première fois. J'avais pas lu beaucoup à l'université. J'étais trop occupé à monter des pièces et à passer du bon temps. Il a fallu que je lise. Vraiment, j'ai dû lire beaucoup dans les années 60.
Et c'est là où on a tous absorbé ces idées. On était très très proche d'un mouvement politique, avec une discipline très sérieuse. Peut-être trop, peut-être un peu trop oppressant. On a appris ça à l'époque. Mais à l'époque, la discipline est de pas dire des choses comme ça en l'air, mais de pouvoir les défendre. On était très très proche d'un mouvement politique, d'un mouvement de la classe ouvrière, de gens qui étaient actifs dans les usines, sur les quais, dans les mines, dans la construction, dans le BTP, des travailleurs manuels qui participaient aux mêmes réunions. Et ils nous descendaient avec leurs arguments. Et moi, j'étais un diplômé d'Oxford. J'étais complètement laminé par des mineurs de fond. Parce que eux avaient lu beaucoup, beaucoup plus que nous. Et c'est comme ça qu'on apprend où est sa place dans la société et les responsabilités de retourner à l'étude et d'être certain de ce qu'on disait. C'était vraiment quelque chose de très salutaire, très humiliant aussi. Et donc j'avais beaucoup de respect pour la dignité et la force des gens de la classe ouvrière qui avaient vu et vécu la lutte que nous n'avions que lue et qui avaient leurs propres arguments et qui avaient une expérience. C'était de l'or en barre pour nous. C'était essentiel. Et de transformer ces idées en fiction pour nous. D'avoir 10, 12 millions de gens qui pouvaient le regarder. Quel privilège! Quelle chance de pouvoir être là!
Merci Kanoch. On se retrouve demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Ken Loach. À voix nue, traduction Michel Zlotowski, réalisation Marie Placet, prise de son et mixage Frédéric Quéroux, Éric Boisset, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.